Théologie biblique, 8 mars 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Nous avions donc vu les deux dernières fois ce passage si important de l'épreuve d'Isaac à la fin de sa vie, bénissant Jacob alors qu'il pensait bénir Ésaü. Rebecca, donc, je termine ce passage, Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction dont l'avait béni son père. Donc la bénédiction devient source de haine à cause de la jalousie d'Ésaü par rapport à Jacob. Ésaü dit en son cœur, « Proches sont les jours du deuil de mon père, alors je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle envoya appeler Jacob, son fils, cadet, et lui dit, « Voici qu'Ésaü, ton frère, veut se venger de toi en te tuant. Et maintenant, mon fils, écoute-moi bien. Debout, fuis chez Laban, mon frère, à Haran. Tu habiteras avec lui quelque temps, jusqu'à ce que se détourne la fureur de ton frère, jusqu'à ce que se détourne de toi la colère de ton frère, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Je t'enverrai chercher de là-bas. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour ?» Oui, de nouveau, la médiation de Rebecca. Oui, elle est bien celle qui joue ce rôle de médiatrice, hein, de façon très étonnante. Et c'est intéressant à voir parce que, de fait, c'est la première fois où on peut dire qu'on est en présence de cet aspect de la médiation, de la femme médiatrice. Médiatrice pour permettre à Jacob de recevoir la bénédiction. Et elle a tout arrangé. Et la médiation, vous voyez, implique de porter sur elle la malédiction. Qui est très fort. Elle ne pourrait pas être médiatrice si elle ne portait pas la malédiction sur elle. Vous voyez, quand vous appliquez ça au mystère de Marie, ça va très loin. Parce que ça fait comprendre comment Marie a vécu ce que Jésus vivait sur la croix, être anathème pour ses frères. Marie a dû être anathème pour ses enfants, pour les hommes, pour pouvoir jouer ce rôle de médiatrice. Elle porte la malédiction. Comme de fait, Rebecca accepte ta malédiction, qu'elle soit sur moi, mon fils. Alors je renverse, c'est bien évident, puisque c'est la figure. Mais c'est quand même ce qui nous permet de comprendre jusqu'où va le mystère de la médiation de Marie. Ça annonce. Évidemment, je ne pourrais pas le dire à partir de là uniquement. Hein. Je le dis dans la lumière du mystère de Marie. Mais dans la lumière du mystère de Marie, les préfigurations prennent toute leur signification. Il faut bien comprendre. En théologie mystique, en exégèse, je ne pourrais pas, c'est bien évident. En exégèse, je pourrais simplement montrer que le rôle de la femme devient de plus en plus important. Et c'est déjà très beau. La différence entre Sarah, la relation entre Sarah et Abraham, la relation entre Rebecca et Isaac. Mais surtout, la relation de Rebecca et de Jacob. C'est le rôle de la mère. Encore beaucoup plus, vous voyez, que le point de vue de l'épouse. Très curieux. Déjà, chez Sarah, ça se voyait, mais ça se voit beaucoup plus chez Rebecca. pour ça que le livre, hein, le livre de la Genèse, à partir du chapitre 11, nous montre comment Dieu sanctifie le cœur du Père et sanctifie le cœur de la Mère. C'est le livre de la paternité et de la maternité. Et c'est sous cet aspect-là que nous découvrons le point de départ de l'alliance. Le fondement de l'alliance, c'est la paternité. Et le fondement de l'alliance, c'est la maternité. Et vous avez les deux. Alors, l'ordre de l'Ancien Testament, c'est d'abord la paternité, c'est sûr. C'est d'abord Abraham comme père. Puis c'est Sarah comme mère. Mais ça vient ensuite, puisque sa maternité a été dépassée par la maternité de servante. Donc il y a eu un moment où Sarah a été privée de sa maternité. Il y a eu cette privation qui a intensifié sa maternité, qui a fait que sa maternité prenait une force encore plus grande. Vous voyez, c'est comme toujours, quand Dieu fait attendre certaines choses, que Dieu réclame la patience, c'est pour intensifier dans l'ordre de l'amour. Ça ne peut pas être pour autrement. Il a fait attendre Abraham, il a fait attendre Sarah. Et lorsqu'il s'agit de Rebecca, on voit cette maternité de choix. Ce n'est pas seulement celle de la chair et du sang, mais c'est une maternité de choix à l'égard du Benjamin. Cette maternité spéciale. Et nous voyons là sa médiation. Sa médiation suit sa maternité. Très intéressant à voir, du reste. Quand on se demande un peu les relations entre la maternité divine de Marie et la médiation de Marie. La maternité fonde la médiation. Parce qu'elle est mère, elle est médiatrice. Et elle est médiatrice en tant que mère. Et nous le voyons bien ici, c'est que sa médiation est une médiation qui est d'abord dans l'ordre du choix. Une médiation qui donne à Jacob la force d'agir, qui donne à Jacob une décision que Jacob n'aurait pas autrement. Il aurait peur. Jacob aurait laissé tomber son droit d'aînesse. Tandis que Rebecca ne veut pas qu'il perde son droit d'aînesse. Il lui rappelle son droit d'aînesse et c'est grâce à elle que Jacob reprend poil de la bête, hein, là, c'est tout à fait vrai, puisqu'il prend le poil d'Ésaü. Alors c'est tout à fait particulier. Et il reprend cette force étonnante pour pouvoir aller au-devant grâce à Rebecca qui le pousse à cela pour qu'il puisse recevoir la bénédiction. Et après, elle porte la fureur d'Ésaü, la colère d'Ésaü, la malédiction. Elle ne l'a pas portée. Mais elle était in preparatione animi. Elle était une préparation, dans la préparation intérieure. Elle était prête à porter la malédiction. Elle ne l'a pas portée. Mais elle a porté la conséquence, la colère d'Ésaü. Et ça, elle l'a portée sur elle. Et elle avertit. Donc, c'est encore la médiation. Vous voyez ? C'est intéressant de voir les modalités différentes de la médiation et comment cette médiation repose sur sa maternité de choix. Pas la maternité tout court qui est source de médiation. Toute mère n'est pas médiatrice, c'est bien évident. Il faut une médiation de choix, donc une médiation contemplative. C'est la médiation contemplative qui est ce qui est fondement de la médiation. Pour Marie, c'est net. Sa maternité contemplative, parce que c'est une maternité de choix, est fondement de sa médiation. Et la médiation est comme une conséquence de sa maternité. Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-là, d'entre les filles de Heth, d'entre les filles du pays, que m'importe la vie. Un petit chantage très très joli de Rebecca. Il faut donner une raison pour que Jacob puisse partir. Mais elle est toujours la médiatrice. Elle joue admirablement son rôle. Hein. Vous voyez tous les moments de la médiation de Rebecca. Rebecca, c'est la médiation. Parce qu'il y a ce choix maternel. Alors elle enveloppe, disons, et Jacob. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas, lui dit-il, une femme d'entre les filles de Canaan. Hein, ça a été très efficace. Vous voyez, la médiation, ça a été très très efficace. Abraham avait pris la décision tout seul. Isaac, il est inspiré par Rebecca. Et cette inspiration de Rebecca fait partie de la médiation de Rebecca. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas, lui dit-il, une femme d'entre les filles de Canaan. Debout, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère. Et là, prends pour toi une femme d'entre les filles de Laban, le frère de ta mère. Et que elle, Kadaï, te bénisse, qu'il te fasse fructifier et multiplier pour que tu deviennes une assemblée de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, pour que tu possèdes le pays de tes pérégrinations que Dieu a donné à Abraham. » Vous voyez, la première fois où la bénédiction passe par un instrument. Après la purification de la paternité, Isaac a été purifié dans sa paternité puisqu'il a béni celui qu'il ne voulait pas bénir. Donc il a été instrument de Dieu, d'une façon totale. Il a béni celui que Rebecca voulait qu'il bénisse. Et Rebecca était elle sous l'influence de l'Esprit Saint. Donc, il a béni celui que l'Esprit Saint voulait qu'il bénisse. Il a agi en instrument de Dieu. Et agissant en instrument de Dieu, immédiatement, il peut communiquer la bénédiction de Dieu. Ça fait partie du sacerdoce. Ce qui caractérise en premier lieu le prêtre, c'est de bénir. On le sait. Melchisédek bénit Abraham. C'est la seule action sacerdotale qu'il exerce sur Abraham. Et ici, nous voyons bien que la bénédiction que lui a reçue directement de Dieu, ce n'est pas Abraham qui lui a communiqué, c'est Dieu. Ici, lui, il communique cette bénédiction. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi. Et c'est la bénédiction du Père qu'il communique, ce n'est pas la sienne. C'est la bénédiction d'Abraham. C'est aussi très beau, ça. Ça fait partie de la paternité du Fils. La paternité du Fils communique la bénédiction du Père. C'est aussi très intéressant pour comprendre ce que c'est que la paternité du Fils. Le sacerdoce, c'est la paternité du Fils. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est ce qui caractérise le propre du sacerdoce. Le sacerdoce du Christ, c'est la paternité du Fils. C'est la paternité du Fils. Ce n'est pas la paternité tout court. La paternité tout court, c'est celle du Père. Et elle est au-delà du sacerdoce. C'est une paternité absolue. Tandis que la paternité de Jésus est une paternité de médiation. Et elle a l'autorité du Père. Et donc elle est paternelle. Je dis ça, c'est pour que nous entrions de plus en plus, parce que tout ça nous doit nous aider à comprendre le mystère du Christ. Et c'est important de saisir la différence de l'autorité du Père et l'autorité de Jésus. L'autorité du Christ, c'est l'autorité du Fils, qui a reçu du Père toute autorité. Et donc, quand il bénit en communiquant la bénédiction du Père. C'est ce que fait Isaac, puisque Isaac, c'est le Fils et c'est le Père. C'est le fils de prédilection et c'est le Père. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, pour que tu possèdes le pays de tes pérégrinations que Dieu a donné à Abraham. Isaac envoya donc Jacob qui s'en alla à Padam Aram, chez Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Tout est dit, hein, c'est répété avec force tout le temps. Ça, c'est propre de ce que nous voyons dans la Genèse. Vous voyez que c'est intéressant. Ce n'est pas la mère, ce n'est pas Rebecca qui envoie son fils chercher une épouse. Elle en a eu l'inspiration, elle en a eu l'intuition, mais elle n'a pas l'autorité. Il faut que Jacob parte dans l'obéissance et dans l'obéissance à son père pour être béni de Dieu, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et c'est grâce à la médiation de Rebecca sur Isaac que de fait il peut partir avec cette bénédiction. Vous voyez, c'est important parce que ça montre bien le rôle de la mère médiatrice. Ce n'est pas elle qui envoie, mais elle a l'inspiration. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padam Aram pour y prendre femme. Quand le bénissant lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme d'entre les filles de Canaan. » Abraham avait eu une bonne inspiration. Ésaü n'a pas suivi ce que le grand-père avait comme inspiration. Il a voulu faire original, œuvre originale, sa propre pensée. Mauvais petit-fils, hein, qui veut prendre son indépendance et sa revendication. Tandis qu'au contraire, Jacob, il est dans la ligne. C'est extraordinaire de voir ça. Il est dans la ligne. Il suit les avertissements du grand-père. Tu ne prendras pas une femme d'entre les filles de Canaan. Et que Jacob, écoutant son père et sa mère, s'en était allé à Padam Aram. Ésaü vit que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Ésaü s'en alla chez Ismaël et prit pour femme, en plus de celle qu'il avait, Mahala, fille d'Ismaël, le fils d'Abraham et sœur de Nébaïot. Ça, c'est une petite histoire familiale intéressante, n'est-ce pas, pour voir la descendance d'Ésaü. Ça ne nous intéresse pas directement ici, mais c'est intéressant quand même de voir l'influence, n'est-ce pas, sur Ésaü, l'influence du père, alors qu'avant il n'avait eu aucune influence. Il a été humilié, alors il est plus accessible à l'influence du Père. Je crois que nous pouvons dire ça. Ésaü était terriblement humilié. Alors immédiatement, il veut retrouver un peu plus d'affection du Père. Et comme les filles qu'il avait choisies, malgré le Père et malgré le grand-père, ses filles étaient sujets d'éloignement, il en choisit une autre qui pourra rétablir des liens. Jacob quitta Beersheba et s'en alla vers Aram. Il atteignit un certain lieu et s'y arrêta pour la nuit, car le soleil était couché. Prenant une des pierres du lieu il en fit son chevet et se coucha en ce lieu. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée à terre et son sommet touchait le ciel. Et voilà que des anges de Dieu y montaient et descendaient. Et voilà que Yahvé se tenait debout près de lui. Il dit, « Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, c'est à toi que je la donnerai, ainsi qu'à ta descendance. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu déborderas à l'ouest et à l'est, au nord et au midi, et par toi se béniront toutes les familles de la terre. Par toi et par ta descendance. Et voici que moi, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers ce sol, car je ne l'abandonnerai pas, que je n'ai fait ce que je t'ai dit. » Donc on voit très bien ici un acte religieux de Jacob, l'autonomie de Jacob, on pourrait dire ça si vous voulez. Il quitte ses parents, son père et sa mère. Où est-ce qu'il va retrouver une stabilité ? Dans son adoration avec Dieu. C'est très fort, ça. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée à terre et son sommet touchait le ciel. Et voilà que des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Vous savez bien que dans l'évangile de Saint Jean, Jésus fait allusion à cela devant Nathanaël. Premier enseignement que Jésus donne à Nathanaël, ce passage que vous connaissez bien dans l'évangile de Saint Jean. Alors ça nous touche particulièrement, et puis ça touche Nathanaël, ça touche donc particulièrement la communauté, n'est-ce pas ? Alors on voit bien, il est dit ça. Je t'ai vu, donc quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Non ? Et il dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est le premier enseignement de Jésus, selon l'évangile de Saint Jean. Et ce premier enseignement de Jésus, il est donné particulièrement à Nathanaël. C'est sûr. Nathanaël avait besoin d'être enseigné. Parce que Nathanaël était un intellectuel, alors il avait besoin d'être enseigné. Il avait déjà roulé sa bosse partout, alors il avait besoin d'être enseigné. Et il reçoit cet enseignement particulier que Jésus lui donne. C'est très beau, c'est très touchant. Pierre n'avait pas tellement besoin, Jean non plus, Philippe non plus, Nathanaël, André non plus. Mais Nathanaël avait besoin. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? On voit très bien la résistance, hein, parce qu'il connaît parfaitement, il connaît l'Écriture, et donc c'est le premier qui de fait met cet aspect négatif. Et Jésus répond par quelque chose de positif. Son enseignement. Et alors, c'est très curieux de voir que l'enseignement que Jésus prend, évidemment, c'est la réalisation de ce rêve prophétique que Jacob a reçu. Il y a donc un lien très particulier entre Jacob et Jésus. Vous voyez ? C'est quand même intéressant à voir ça. Essayez de comprendre. Il eut un songe, voilà qu'une échelle était dressée à terre et son sommet touchait le ciel. Donc cette échelle s'est montrée ce que Jésus réalisera. Le grand prêtre médiateur qui fait qu'entre le ciel et la terre, il y a un grand prêtre. Et donc il y a une échelle. Il y a un lien. Il n'y a plus de coupure. Voici qu'une échelle était dressée à terre et son sommet touchait le ciel. Et voilà que des anges de Dieu y montaient et descendaient. Donc, Jacob est une préfiguration du Christ. Plus qu'Abraham, plus qu'Isaac. Alors on pourrait dire qu'Isaac est une préfiguration de l'état victimat et que Jacob est une préfiguration du sacerdoce et qu'Abraham est une préfiguration de la paternité. Parce que les trois préfigurent, c'est bien évident. Les trois annoncent, c'est le point de départ de l'alliance. Et donc il y a une préfiguration qu'il faut découvrir. Et cette préfiguration ici, elle est très importante, parce qu'elle nous montre bien comment Jésus se présente à Nathanaël. C'est quand même important de voir ça. Et de voir le premier renseignement que Nathanaël reçoit, lui qui connaît parfaitement l'Écriture et qui peut dire « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Très important, ça. Parce que ce sera l'objection constante, qu'on viendra tout le temps. Nous connaissons son père et sa mère. Quand on dit nous connaissons son père et sa mère, c'est Nazareth. Tout de suite. Ben non, c'est impossible. On ne peut pas être fils de Dieu. On ne peut pas être envoyé de Dieu. On connaît trop bien. C'est une grosse, grosse objection. Et face à cette objection, Jésus montre qu'il est l'échelle de Jacob. Qu'il est le souverain prêtre. Le lien entre la terre et le ciel. Car pour être parfaitement le lien entre la terre et le ciel, il faut qu'il passe à Nazareth. Nazareth, c'est le lieu des pécheurs, c'est le lieu de ceux qui sont pas tout à fait limpides et purs. C'est pas précisément un lieu de recommandation. Et Jésus a voulu passer 30 ans dans ce lieu de mauvaises recommandations, au point de vue de la foi, le lieu où c'était plus ou moins bien. C'est beau de voir ça avec Jacob. Voilà qu'une échelle était dressée à terre et son sommet touchait le ciel. Et voilà que les anges de Dieu y montaient et descendaient. Et voilà que Yahvé se tenait debout près de lui. Il dit « Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. » La première fois où Dieu dit le Dieu d'Isaac. C'est la première fois. Il dit le Dieu d'Isaac à Jacob. Il ne le dit pas à Isaac, mais il le dit à Jacob. La terre sur laquelle tu es couché, c'est à toi que je la donnerai, ainsi qu'à ta descendance. Ta descendance sera comme la poussière de la terre. Tu déborderas à l'ouest et à l'est, au nord et au midi. Vous voyez, ça c'est la dimension du cœur du Christ, préfiguré ici par la terre. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, tu déborderas à l'est. C'est toute la descendance, c'est le cœur blessé de Jésus, toutes les dimensions. Tu déborderas à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et par toi se béniront toutes les familles de la terre, par toi et par ta descendance. Et voici que moi je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers ce sol, car je ne t'abandonnerai pas que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Jacob se réveilla de son sommeil. Il dit, en vérité, Yahvé est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Terre sainte, terre sacrée, terre consacrée à Dieu, véritable terre, c'est le Christ, l'échelle de Jacob, vous comprenez bien. C'est ça la véritable terre, c'est vraiment là le lieu de la rencontre, c'est le Christ. Il eut peur et dit que ce lieu est terrible. Ce n'est rien moins qu'une maison de Dieu et c'est la porte du ciel. Nous savons comment toute la tradition a repris ça pour la fête de la dédicace. Terribilis est locus. Ce lieu est terrible. Parce que c'est le lieu de Dieu. C'est le lieu où habite Dieu. Mais pas n'importe quelle terre, c'est une terre sainte. Le lieu où habite Dieu, c'est l'humanité sainte du Christ. Que ce lieu est terrible. Ce n'est rien moins qu'une maison de Dieu. C'est la porte du ciel. Porte du ciel, c'est Jésus. Je suis la porte. Jacob se leva de grand matin. commencer l'affiche sur la porte, ici à la porte du ciel, il ne faut pas l'oublier. Bon, parce que prendre toutes les fiches sur tous les noms de Jésus, à travers toute l'écriture. Jacob se leva de grand matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet, et la plaça en stèle, et versa de l'huile sur son sommet. Manière de consacrer cette pierre pour que cette pierre ne puisse plus servir à un usage profane. C'est ça la consécration. Consécration d'un calice. Consécration d'une maison. Elle ne peut plus servir à un usage profane. Et l'huile qu'il verse montre bien ça. Il versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Bethel. Mais primitivement, le nom de la ville était Luz. Jacob fit ce vœu. Là encore, une fiche sur le vœu. Hein? Les vœux à travers l'écriture. Hein? Les vœux à travers l'écriture, vous voyez bien, hein? c'est important de voir ça. Les vœux à travers l'écriture, vous voyez bien, hein? c'est important de voir ça. Jacob fit ce vœu, si Dieu est avec moi, et s'il me garde dans ce voyage que j'entreprends, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf dans la maison de mon père, Yahvé sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai placée en stèle sera une maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je te donnerai fidèlement la Bible. Vous voyez la reprise de tout ce qui avait été déjà vu avant. Et là, tout se condense dans Jacob. Il y a une espèce de densité dans le personnage de Jacob qui est très impressionnant. Il faut saisir ça. Il faut saisir tout ce qui est dit là. Vous voyez, Abraham avait envoyé son serviteur et il avait fait un serment. Il avait demandé à son serviteur un serment. Il avait fait un serment avec son serviteur. Ici, c'est Jacob lui-même, c'est le fils. Vous savez bien cette parabole qui existe, hein, on envoie les serviteurs puis on envoie le fils. C'est dit, on le retrouve ici. Puisqu'on voit bien, c'est d'abord le serviteur. Abraham envoie son serviteur. Et Isaac, c'est son fils. C'est pas un serviteur. Grâce à Rebecca, normalement ça aurait dû être le serviteur. C'était pas la place du fils d'aller mendier une épouse, hein. C'est très curieux selon les mœurs du temps, hein. Abraham avait envoyé son serviteur et Isaac était resté. Il fallait surtout pas que ce soit le serviteur qui parte et que Jacob reste. Il serait mort. Rebecca avait trop peur. Donc il fallait que lui parte. Alors, vous voyez cette chose très curieuse que le serviteur et le fils. Ça nous fait comprendre certaines choses. Que le serviteur et le fils. Que le fils devient serviteur. À cause de quoi? À cause de la haine de Jacob, d'Ésaü. À cause de la médiation de Rebecca. Dans le plan de Dieu, nous devons regarder toujours attentivement ce qui nous est montré dans l'Ancienne Alliance, puisque dans l'Ancienne Alliance, tout est beaucoup plus décrit, et donc beaucoup plus lisible pour nous. C'est l'ordre génétique. Dans l'ordre génétique, c'est beaucoup plus simple à comprendre. On comprend ça tout de suite. Dans la Nouvelle Alliance, tout est tellement dense qu'on ne comprend pas, et qu'on ne voit pas assez. Alors Jésus le dit en parabole, c'est sûr, mais c'est d'autant plus beau quand on le voit réalisé concrètement et qu'on voit ce passage, vous voyez, entre ces trois pères. C'est pour ça que ces trois pères que nous donne la Genèse, c'est quelque chose de si important. Au point de vue du gouvernement divin, c'est capital cela. La Genèse, et c'est capital pour comprendre le gouvernement divin. Parce que c'est quelque chose de très premier, où les choses sont dites avec beaucoup de netteté. Alors vous voyez bien, le vœu de Jacob, c'est le premier vœu, donc il est encore sous une forme très imparfaite. Si Dieu est avec moi, et s'il me garde dans ce voyage que j'entreprends, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, donc il y a le pain et les habits, si je reviens sain et sauf dans la maison de mon père, Yahvé sera mon Dieu. Donc vous avez pas mal de conditions dans ce vœu. Vous avez 4 conditions. Ce n'est pas un vœu perpétuel, solennel. Hein, 4 conditions. C'est le début. C'est le point de départ de ce que représentent les vœux. Et cette pierre, donc Yahvé sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai placée en stèle sera une maison de Dieu. Et tout ce que tu me donneras, je te paierai fidèlement le tien. Donc, on voit bien ce moment juste avant la grande rencontre. C'est Jacob, je crois qu'on peut dire ça, qui après les grandes secousses de la haine de son frère, doit être repris par Dieu. Il est repris par Dieu. Le songe, c'est Dieu qui vient au-devant. Et le vœu et la construction de la stèle, c'est Jacob qui répond. Ils avaient donc allé leur tour, de façon tout à fait merveilleuse. Et vous avez Dieu qui vient au-devant, dans le songe. La réponse, c'est la stèle qu'on construit pour Dieu. Et puis, c'est aussi le serment, le vœu. Et ceci, c'est pour que nous comprenions comment Dieu se sert de Jacob. Vous voyez plus exactement comment Dieu refait sa bénédiction à Jacob d'une manière encore plus profonde qu'à Abraham et Isaac. Jacob reprit sa marche et s'en alla vers le pays des filles de l'Orient. Et voici qu'il vit un puits dans la campagne. Donc, l'importance des puits, hein, je vous ai déjà dit. Il faut bien comprendre cela. Il faut bien comprendre l'importance des puits. C'est quand même quelque chose, on l'a déjà vu, mais on le retrouve ici. Hein. Et voici qu'il y avait trois troupeaux de petits bétail couchés près du puits. Car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. Il y avait une grosse pierre sur la bouche du puits. Quand tous les troupeaux étaient rassemblés là, on roulait la pierre de dessus la bouche du puits et on faisait boire le petit bétail, puis on ramenait la pierre sur la bouche du puits à sa place. Et c'est très curieux, tous ces détails, hein, alors que c'est très très normal, on voit très bien, non, c'est raconté. Il y a sûrement une signification à tout cela. Autrement, on ne dirait pas ces détails. Hein. Ce serait inutile. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous ?» Ils dirent, « Nous sommes de Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor ?» Ils dirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Se porte-t-il bien ?» Ils dirent, il se porte bien. Et voici Rachel, sa fille, qui arrive avec le petit bétail. Ça, pour le cœur de Jacob, hein, c'est important. On voit très très bien. Ce sont des bergers, oui, qui ont dit ça. C'est des bergers. Ça ne pas très bien ce qu'ils disent, hein, mais ils disent des choses qui. Ils livrent des secrets, sans le savoir. Ils livrent des secrets. Ça, c'est les petits bergers, oui. C'est des novices. Ils livrent des secrets sans le savoir. Hein. Alors, il se porte bien, et voici Rachel, sa fille, qui arrive avec le petit bétail. Il dit, voici qu'il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler les bêtes. Faites boire le petit bétail, et à les faire paître. Et dire, nous ne pouvons le faire avant que soient rassemblés tous les troupeaux. Alors on roule la pierre. Vous voyez pourquoi on a mis ces détails hein. On donne les détails. Ici, on fait comprendre pourquoi. Alors, on roule la pierre de dessus la bouche du puits et nous faisons boire le petit bétail. Parlez encore avec eux. Quand Rachel arriva avec le petit bétail de son père, il fallait donc attendre le petit bétail. On ne dit pas qu'il fallait attendre Rachel. C'était le petit bétail. C'est pas la finalité en premier lieu, vous voyez bien. Et la finalité, c'est d'enlever la pierre pour puiser l'eau du puits et donner à boire au petit bétail. Tout est là. Rachel est au service du petit bétail, c'est très net, dans la perspective qui nous est montrée ici. C'est intéressant à souligner ça. Il parlait encore avec eux quand Rachel arriva avec le petit bétail de son père, car elle était bergère. Ça ajoute au folklore. Or, dès que Jacob vit Rachel, la fille de Laban, frère de sa mère, et le petit bétail de Laban, frère de sa mère, Jacob s'avança, roula la pierre de dessus la bouche du puits, et fit boire le petit bétail de Laban, frère de sa mère. La finalité. Cette finalité ici est très très précise. Puis Jacob embrassa Rachel, éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était le frère de son père et qu'il était le fils de Rebecca. Et elle courut l'apprendre à son père. Or, dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit, l'embrassa tendrement et le fit entrer dans sa maison. Jacob raconta à Laban tout ce qui était arrivé et Laban lui dit, « Oui, tu es mes os et ma chair. » Jacob habita avec lui un mois durant. Oui, c'est quand même très curieux que les paroles, hein, l'os de mes os, chair de ma chair, reviennent ici, entre Laban et Jacob, comme une espèce d'alliance souterraine selon la chair et le sang qui réapparaît ici. Au moment de la rencontre, c'est très simple, hein? C'est très fort en même temps. C'est très simple parce que c'est lié à ce climat, tout simplement, des réalités quotidiennes. Donner l'eau au petit bétail. Et on montre à travers cet événement familial, quotidien, une note spéciale de Jacob, la générosité de Jacob. Il se précipite pour enlever la pierre. Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon frère, vas-tu me servir pour rien ?» C'est un rusé, Laban, hein ? On va le voir, ça. C'est pour ça qu'il fait des offres. Parce que tu es mon frère, vas-tu me servir pour rien ? Indique-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. Le nom de l'aînée était Léa. Le nom de la cadette, Rachel, la bergère. Léa avait les yeux faibles, tandis que Rachel était bien faite. Et belle à voir. Jacob aimait Rachel. Je crois que dès qu'il l'a vue la première fois, il y a là quelque chose, il y a un mois qu'il est là quand même, hein, Mais ça fait rien. Je crois que ça fait assez rapide. On sent bien, tout le récit est là pour nous cacher cette rencontre et en même temps la dévoiler. Ça qui est merveilleux. C'est la première fois dans l'Écriture où on montre cette rencontre de deux êtres qui sont faits l'un pour l'autre et comment Dieu les téléguide. C'est merveilleux au point de vue de l'économie divine. Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. La bandit, mieux vaut te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. C'est la prudence du Normand. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait la prudence. Pas beaucoup d'emballement, mais quand même. C'est la famille, donc c'est sûr. Mieux vaut te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ça, c'est un amour bien, bien sûr. 7 ans de service, 7 ans. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entre dans le royaume de Dieu. Non, non, 7 ans de service. 7 ans de noviciat. C'est ça, avant de pouvoir vraiment recevoir Rachel. Jacob servait 7 ans pour Rachel et lui parurent quelques jours. Tellement il l'aimait. Ça aussi, c'est merveilleux pour voir la qualité de l'amour de Jacob pour Rachel. Ça lui parut quelques jours. Oui, noviciat de 7 ans, quelques jours. Si on aime vraiment la Sainte Vierge, quelques jours, rien du tout. Pour qu'elle nous soit donnée, il faut bien 7 ans. Il lui parut quelques jours, tellement il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme. Alors la femme, l'affiche sur la femme, ça apparaît ici, il ne faut pas l'oublier. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et je veux aller vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Mais le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena à Jacob qui allait vers elle, qui alla vers elle. Laban donna son esclave, Silpa, pour esclave à Léa, sa fille. Or au matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit à Laban, que m'as-tu fait là? Pourquoi donc m'as-tu trompé? Ça, c'est les petites histoires de l'écriture, C'est très, très curieux. C'est vrai, il faut voir les choses comme elles sont et comment Dieu se sert de la ruse de Laban. C'est la ruse, il l'a trompé. Il n'a jamais dit. C'est une ruse terrible. Alors ça, il faut essayer de comprendre ces choses-là. Parce que si Dieu nous les donne, c'est pas pour raconter la petite histoire, digne de petite histoire qu'on peut raconter. Ah, je l'ai eu, je l'ai possédé, voilà. Et je le savais bien, il voulait Léon. On voit très bien le raisonnement de cet homme prudent. Si la cadette se marie avant l'aîné ne se mariera jamais. C'est toujours comme ça que ça arrive. On connaît les histoires, Or, l'une est attirante et l'autre ne l'est pas. Alors, il faut donc être plus malin. Et comme Jacob l'aime tellement, on l'a bien vu, ces 7 ans, ça a été extraordinaire. Quelque temps, il faisait tout par amour. Non pas pour Laban, mais pour Rachel. Et grâce à Rachel, il obéissait à Laban. Vous voyez le truc pour obéir, c'est merveilleux ça. Grâce à Rachel, il obéissait à Laban. Mais facilement, sans aucune difficulté. Et Laban était suffisamment malin pour s'en apercevoir. Combien il l'aimait. Combien il aimait Rachel. Alors lui, ça va continuer, on va gagner 7 ans. Mais c'est une espèce de ruse dans l'ordre de l'efficacité. C'est dans l'ordre de l'efficacité, pas du tout dans l'ordre de l'amour. Hein. Là, vous avez un duel extraordinaire entre l'efficacité et l'amour. Hein. C'est peut-être le premier qui nous est montré là. Un duel extraordinaire de cette prudence efficace de l'amant, de ce père qui aime ses filles, mais qui aime ses filles plus que ceux qui devront les épouser. C'est sa fille avant tout qu'il veut sauvegarder. Que m'as-tu fait là? Pourquoi donc m'as-tu trompé? L'amant dit: cela ne se fait pas dans notre contrée de donner la plus jeune avant l'aînée. Voyez les coutumes, hein, les lois, les coutumes et la morale. Hein, c'est toute cette chose-là qui est là présente. Hein, ça ne se fait pas dans notre contrée. Ce sont des coutumes. Cela ne se fait pas dans notre contrée de donner la plus jeune avant l'aînée. Je t'ai pas trompé. Tu n'as qu'à savoir nos coutumes. Mais il se met derrière les coutumes, c'est sûr. Et au nom de ses coutumes, il a très bonne conscience. Hein ? Voir ce que c'est que la responsabilité morale et les coutumes. Accomplis la semaine de celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. Le contrat qu'il fait. Jacob fit ainsi. Il accomplit cette semaine-là et Laban lui donna Rachel, sa fille, pour femme. Laban donna son esclave, Bila, pour esclave à Rachel, sa fille. Jacob alla aussi vers Rachel. Et même qu'il aima Rachel plus que Léa. Il servit encore chez Laban 7 autres années. Donc vous voyez le petit marché. Hein, on va donner Rachel à la fin de la semaine. Mais en lui donnant, il faut rester 7 ans encore. Alors, vous voyez, cette année, avec le don par surcroît de l'aîné, qui n'était pas demandé. Mais on le fait à cause des coutumes. Tout ça, c'est Dieu se sert de tout ça. C'est ça l'économie divine. Pour arriver à comprendre ces choses-là. On est encore dans l'imperfection. Hein. Jésus nous dira que l'Évangile nous remet dans la loi première, la loi naturelle. Là, les coutumes ne vont pas selon la loi naturelle. Et cependant, Laban les utilise. Je crois qu'il y a dans tout ça quelque chose qui doit nous enseigner. Ce n'est pas toujours commode à bien saisir l'enseignement de Dieu à travers cela, mais il y a quelque chose qui doit nous enseigner. Il y a quelque chose de très net. C'est le primat de l'amour sur l'efficacité. C'est le primat de l'amour sur tout. Il aimait Rachel. Et cela lui permet d'attendre 7 ans et de travailler. Et cela lui permet d'assumer ses coutumes sans perdre son amour premier. Il aima Rachel plus que Léa. C'est souligné. Donc ça, c'est très très net. Hein. Cet enseignement nous montre la primauté de l'amour. Et la primauté de l'amour de l'époux et de l'épouse. Ce qui n'était pas montré avant. Et comment Dieu progressivement purifie le cœur de l'homme. Il a d'abord purifié le cœur du Père, parce que c'est ce qui est le plus facile à purifier. Toujours. Puis il purifie le cœur de l'époux, ce qui est plus difficile à purifier. parce que la passion est plus forte quand elle va de l'époux à l'épouse que la passion du père à l'égard de ses enfants. Et c'est pour ça que c'est plus facile à purifier. C'est pour ça que la première chose, selon l'ordre génétique que Dieu purifie, c'est la paternité. Et ensuite, la maternité. Et ensuite, le cœur de l'époux. Chez Jacob. Yahvé vit que Léa était haïe. Et il ouvrit le sein de Léa, tandis que Rachel était stérile. Là aussi, encore un petit mystère en économie divine. C'est plein de mystères de l'économie divine, tout ça. Parce que c'est dit, c'est ça qui est merveilleux. Vous voyez, c'est naïf. C'est vrai, comparativement à ce qu'on verra après dans le livre de l'Ecclésiaste, hein, pas tout à fait aussi naïf. Ou dans le livre de Job, pas tout à fait aussi naïf. Là, c'est Dieu qui parle à travers les hommes et qui parle à travers ses alliances qu'il fait. On vit que Léa était haïe et il ouvrit le sein de Léa. Tandis que Rachel était stérile, Léa conçut et enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ruben. Car elle dit, puisque Yahvé a vu ma misère, maintenant mon mari m'aimera. Ah, ça c'est la conquête de l'amour, hein. On voit bien. Léa veut conquérir l'amour de son époux. Puisque Yahvé a vu ma misère, maintenant mon mari m'aimera. Elle conçut encore et enfanta un fils. Alors la fécondité va remplacer la beauté. Nigrasum cette formosa, hein. C'est vrai. C'est tout à fait juste de Léa. Léa, elle ne conquiert pas par la séduction. Elle va attirer par la fécondité. C'est une espèce de partage que Dieu fait entre Léa et Rachel qui est aussi très étonnant. Elle dit, « Yahvé entendu que j'étais haï et il m'a donné encore celui-ci. » Elle l'appela du nom de Siméon. Elle conçut encore et enfanta un fils, Élie. Pardon, elle conçut et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui enfantai trois fils. Voilà pourquoi elle l'appela du nom de Lévi. Elle conçut encore et enfanta un fils. Elle dit, cette fois je célébrerai Yahvé. Voilà pourquoi elle l'appela du nom de Judas. Alors, vous voyez, chacun a une signification. Hein, chacun des noms. On les retrouvera dans les 12 tribus. Et c'est intéressant de voir le point de départ des 12 tribus. Par Léa. Par celle qui, au point de départ, n'est pas aimée. Par celle qui est imposée, par ruse. Voilà pourquoi elle l'appela du nom de Judas. Alors elle cessa d'enfanter. Donc, quatre fils. Ruben, l'aîné. Droit d'aînesse. Ruben, c'est l'aîné. Siméon. Lévi, Judas. La tribu du Judas, c'est très bien. Si vous avez vu les très belles, pas mosaïques, mais les vitrailles, le vitrail avec la, sur les 12 tribus d'Israël, c'est extraordinairement beau. Ils ont été exposés à Paris avant de partir en Israël. Et maintenant, c'est en Israël, et ça, la synagogue qui est dans l'hôpital qui est lié à l'université d'Israël, il y a ses vitraux, sur les 12 tribus d'Israël et la tribu du Juda. Elle annonce Jésus. Elle annonce cette chose merveilleuse et on voit cette chose étonnante. Et c'est très beau de, d'essayer de comprendre ce que représentent ces différentes tribus qui sortent de Jacob. Rachel vit qu'elle n'avait pas donné d'enfant à Jacob. Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils ou je meurs. » Elle est jalouse. Vous voyez, on voit la trame de la jalousie, hein, il ne faut pas l'oublier, la trame de la jalousie. Jalousie de Caïn, jalousie de Sarah, Rebecca, c'est différent. Jalousie de Rachel. L'amour de Jacob pour elle ne lui suffit pas. Alors que ça devrait lui suffire. C'est les vitraux de Chagall.